Radio Kapi. Oh, Kapi.
À la une de l'actualité ce soir sur Radio Kapi, des réactions fusent après une frappe des drones sur un quartier résidentiel ce mercredi à Goma, au Nord Kivu. Une attaque qui a fait 3 morts, dont une employée des Nations Unies. Plusieurs responsables internationaux dénoncent des violences contre les civils et appellent au respect du droit international humanitaire. Drame minier dans le Lualaba. 9 creuseurs artisanaux ont péri dans un éboulement sur les sites des Safi, dans la concession de Boss Mining à Kakanda, dans les territoires de Lubudi. Un bilan encore provisoire. Plus de 30 ans de guerre dans l'est de la RDC et plus de 10 millions de morts. Quelle solution pour mettre fin durablement à cette crise? Entretien exclusif à suivre dans ce journal avec Igo Zala, président national du parti Base Républicaine. Voilà tout pour les titres. Bonsoir à tous. L'émotion et les condamnations se multiplient au lendemain de la frappe des drones qui a touché un quartier résidentiel de Goma, ville du Nord Kivu, occupée depuis plus d'un an par l'AFC M23. Cette attaque a fait 3 morts, dont une employée des Nations Unies travaillant pour l'UNICEF. Plusieurs dirigeants et responsables internationaux dénoncent des violences aveugles, rappellent l'obligation de protéger les civils et les humanitaires et exigent le respect du droit international humanitaire. Le condensé des réactions avec vous, Martial Papimukeba.
En tête des réactions, le président français Emmanuel Macron, la victime onisienne étant de nationalité française, il appelle au respect strict du droit international humanitaire et à la protection du personnel engagé pour sauver des vies. Les États-Unis, par la voix du Bureau des Affaires africaines du département d'État, dénoncent une attaque qui aggrave encore le bilan humain dans l'est de la RDC. Washington juge inacceptable les frappes visant des zones civiles et appelle toutes les parties au conflit à garantir la sécurité des humanitaires. Le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost, condamne pour sa part ce qu'il qualifie de violence aveugle. Il déplore la multiplication de ces attaques qu'il considère comme une violation du cessez-le-feu et exhorte les belligérants à privilégier la voie des négociations. À la Commission européenne, la commissaire chargée de la gestion des crises, Adja Labib, estime que prendre pour cible des civils constitue un crime et un acte abject. Béni, Martial Papimukeba, Radio Kapi.
Pendant ce temps, plus de 150 déplacés de la guerre de l'Est installés à Lubumbashi ont organisé un sit-in ce mercredi devant les bâtiments de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Ils dénoncent leurs conditions de vie précaires depuis leur arrivée dans la ville et appellent les autorités provinciales ainsi que les organisations humanitaires à leur venir en aide. On écoute Paul Biamungu, représentant de ces déplacés, dans cet extrait sélectionné par Paul Mundanga.
Nous sommes ici, nous les déplacés de la guerre de l'Est, uniquement pour annoncer notre problème que nous sommes en train de traverser ici à Lubumbashi, là où nous sommes. Nous sommes les déplacés et ça fait presque 2 ans que nous sommes là sans aucune assistance sociale. Nous voulons que le gouvernement provincial et même notre gouvernement national puisse nous venir en aide, puisque depuis que nous sommes là, nous passons la nuit toujours dehors sans rien manger et ça nous fait du mal. Nos enfants sont devenus maladifs. Chaque jour, nos enfants sont entre la vie et la mort à cause de la situation que nous sommes en train de traverser. Nos maisons, d'ailleurs, sont toutes détruites à cause de la pluie. J'avais fait même des écrits aux autorités, mais jusqu'à présent, il n'y a rien. Vraiment, qu'ils puissent nous venir en aide, qu'ils puissent nous donner quelque chose comme les moyens financiers. Comment nous pouvons loger les maisons? Comment nous pouvons s'en sortir pour manger? Comment nous pouvons avoir même des couvertures pour se couvrir? Tout ça, même les soins médicaux. Que le gouvernement puisse aussi nous venir en aide.
Et puis, ce nouveau rapport de l'ONG internationale Human Rights Watch, publié ce mercredi sur la vague des disparitions forcées à Kinshasa. En effet, depuis mars 2025, les forces de sécurité congolaises sont responsables de nombreuses disparitions forcées à Kinshasa, la capitale de la RDC, et dans ses environs, déclare Human Rights Watch. L'ONG dit avoir documenté 17 cas de personnes victimes de disparitions forcées ou portées disparues au cours de l'année passée et a reçu des récits crédibles de plusieurs cas supplémentaires. Bon nombre de ces personnes disparues
disparus ont été retrouvés, souvent des mois plus tard, en détention dans les locaux du Conseil national de cyberdéfense, CNC, qui les a arbitrairement arrêtés et détenus en parallèle de la police nationale congolaise et de la garde républicaine du président, précise le rapport. Alain Rung a lu ce rapport, voici son condensé.
Au cours de l'année passée, les forces de sécurité congolaises ont secrètement arrêté et détenu des personnes pour des motifs fallacieux au cœur de la capitale, a déclaré Lewis Mudge, directeur pour l'Afrique centrale à Human Rights Watch. Dans la plupart des cas, il semblerait que les arrestations soient motivées par des considérations politiques ou concernent des personnes soupçonnées de soutenir le groupe armé qui s'est emparé de certaines régions de l'Est de la République démocratique du Congo. Entre juillet 2025 et mars 2025, Human Rights Watch a mené des entretiens avec plus de 34 personnes, dont 9 anciens détenus du CNC et 11 proches des détenus. Human Rights Watch n'a pas divulgué les noms des personnes interviewées afin de garantir leur sécurité. Les responsables du CNC ont rencontré Human Rights Watch le 20 novembre et le 5 décembre 2025 et l'un d'eux a déclaré que l'unité a pour rôle de coordonner les services essentiels et que ses agents ont le droit d'intervenir si nécessaire. Cependant, le responsable est resté vague sur les détentions, faisant allusion au pouvoir du gouvernement de restreindre la liberté des personnes pour des raisons de sécurité essentielles. En réponse à un courrier de Human Rights Watch, Jean-Claude Bukassa, directeur et coordinateur du CNC, a écrit le 17 février que le CNC ne dispose d'aucun pouvoir d'arrestation ni de détention des personnes.
Nous l'avons dit au sommaire, dans la province du Lualaba, 9 creuseurs artisanaux ont trouvé la mort hier dans un éboulement survenu sur les sites miniers de Safi, situé dans la concession de l'entreprise Boss Mining dans la cité de Kakanda, territoire de Lubudi. Le bilan, encore provisoire, est confirmé par le service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle, SAEMAPE. Le point avec Paul Mounanga.
Selon SAEMAPE, l'accident s'est produit aux premières heures de ce mercredi. D'après des sources locales, plusieurs creuseurs artisanaux s'étaient introduits dans la carrière pour extraire du minerai. Des témoins rapportent qu'une masse de terre s'est détachée d'un remblai. En bas du remblai, plusieurs trous sont creusés par des exploitants artisanaux et ces derniers ont été ensevelis par la masse de terre. Après d'intenses recherches, 9 corps sans vie ont été sortis des décombres, rapportent des sources locales. Entre-temps, des recherches se poursuivent pour retrouver d'éventuelles victimes. Les autorités locales annoncent qu'il pleut abondamment ces derniers jours dans la région et ces précipitations ont fragilisé les sols et favorisé le glissement des terres. SAEMAPE souligne que pour des raisons sociales, les exploitants miniers artisanaux sont parfois autorisés à accéder à certaines parties de la mine pour extraire les minerais. Pour rappel, au mois de février dernier, un éboulement a tué 11 creuseurs artisanaux dans la carrière de Tuluizembe à une vingtaine de kilomètres de Kolwezi. Depuis la ville de Kolwezi, Paul Mounanga, Radio Okapi.
La République démocratique du Congo franchit une nouvelle étape dans la transformation locale de ses ressources minières. Le gouvernement congolais a officiellement lancé ce mercredi la toute première raffinerie pilote d'or du pays à Kalemie, dans la province du Haut-Katanga. C'est ce que nous dit Jocelyne Moussaoponde.
Baptisée DRC Gold Refinery SA, cette installation industrielle est le fruit d'un partenariat entre l'entreprise publique DRC Gold Trading et la société Lunga Mining. La raffinerie a une capacité de production estimée entre 500 et 600 kg d'or par mois. Elle couvrira toute la chaîne de valeur depuis l'achat de l'or brut jusqu'au raffinage et à la production des lingots. Selon le ministre des Mines Liwatum Kabamba, cette infrastructure marque une avancée majeure pour le secteur aurifère congolais. Elle permettra notamment d'assurer une meilleure traçabilité de l'or et d'offrir des prix plus équitables aux mineurs artisanaux. Pour la première fois, la RDC se dote de la capacité de raffiner ses propres minerais stratégiques, tout en garantissant des prix équitables et des conditions transparentes pour les mineurs artisanaux, a déclaré le ministre. Avec cette raffinerie pilote, la RDC ambitionne désormais d'exporter de l'or raffiné à une pureté de 99,9% dans le cadre des réformes engagées pour renforcer la transparence et la valorisation locale des ressources minières.
Jocelyne Moussaoponde sur la fréquence et la paix. Parlons de la lutte contre la criminalité phonique au Maniema. un des deux braconniers récemment arrêtés par l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, en collaboration avec les services de sécurité, a été condamné à 7 ans de servitude pénale. Ce premier jugement favorable à l'ICCN a été rendu lundi dernier par le tribunal de grande instance de Kindu, siégeant en matière répressive lors d'une audience foraine. Très satisfait de cette décision, l'ICCN souhaite que de telles audiences soient organisées régulièrement afin de servir d'exemple à ceux qui font des pratiques illégales dans le parc national de la Lomami. Explication avec Florence Kizalonga.
Il s'agit de M. Kipuka Zakatindi Honora, arrêté le week-end dernier à une dizaine de kilomètres de Kindu par les services de sécurité en possession d'ivoire détenu illégalement. À la suite de son arrestation, l'ICCN a sollicité une audience foraine pour établir leurs responsabilités. Après les prononcés du verdict, l'institution s'est réjouie de cette condamnation. Maître Mikoka Isumbisho Kabanza Désiré, avocat conseil de l'ICCN PNL, a salué cette décision.
Vous savez que nous avons plusieurs dossiers pendant devant les cours des tribunaux et parquets, mais c'est pour la première fois que l'ICCN vient d'avoir un jugement de satisfaction où on a condamné quelqu'un avec une peine sévère, une peine exemplaire, 7 ans pour dissuader les autres qui veulent encore entrer dans le parc en fait de faire la chasse illégale des espèces totalement protégées.
Ce jugement intervient quelques jours seulement après que le magistrat et les personnels judiciaires se sont engagés à contribuer à la conservation de la nature par la répression des actes de braconnage. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Nous sommes au mois de mars, mois dédié à la femme. Michou Mitongu est une femme, artiste peintre. Mariée, mère de 3 enfants, Michou Mitongu exerce son métier depuis 2003 après ses études universitaires à l'Académie des Beaux-Arts de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Notre collègue Esther Nalafina a échangé avec elle et nous propose son portrait.
Michou Mitongu est une femme artiste peintre vivant en Mbujimayi au Kasaï oriental. Pour exercer son métier, Michou est 2 fois contrainte de monter sur une échelle pour rafraîchir le mur d'une maison ou d'un bâtiment. Elle dit être fière.
C'est un métier que je voulais vraiment que je puisse monter aussi aux échelles. Je voyais les papas en train de monter aux échelles. Je me disais, mais moi aussi je suis capable de le faire.
Sur place en Mbujimayi, Michou a déjà mis la peinture sur des bâtiments, des entreprises et dans quelques maisons résidentielles. Le professionnalisme de cet artiste peintre lui a permis d'obtenir certains marchés auprès des grandes entreprises.
J'ai beaucoup travaillé dans des brousses au village, Kabinda, à Ngandangika, à Luebo, avec RTL, avec aussi la CNSS, avec la DGRAD.
Michou Mitongu n'est pas limité. Son rêve est de se professionnaliser dans d'autres métiers, dont le carrelage.
Je me suis même aller à l'INPP faire des formations en bâtiment, en carrelage et en plomberie.
Michou Mitongu déteste de vivre la main tendue. Elle encourage les autres femmes à apprendre le métier pour être autonome. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Sortir des sentiers battus pour devenir actrice du changement, c'est l'appel de Vanessa Kaniki. Pour cette cordonnière établie à Goma, le développement de la RDC passe par l'audace féminine. À l'occasion de ce mois dédié à la promotion des droits des femmes, elle invite ces dernières à ne plus se contenter de reproduire l'existant, mais à oser l'innovation pour répondre aux défis du quotidien. Rosalie Zawadi l'a rencontrée en plein travail dans son atelier au quartier Imbi. Reportage.
Entre les odeurs des cols et des cuirs, Vanessa Kaniki apprête ses outils de découpe pour préparer ses prochaines sandales. De bonne humeur, dans sa tenue noire de travail, elle ne cache pas sa fierté d'avoir choisi ce métier.
Quand j'arrive quelque part et que je dis voilà, je suis Vanessa Kaniki et je suis cordonnière professionnelle, vous-même quand vous écoutez, ça attire beaucoup plus d'attention et moi je dis bon voilà. C'est déjà ce que je gagne parce que je suis dans un domaine où si on doit chercher une subvention ou un financement et que nous sommes toutes des femmes, même si on est à 100 et qu'on doit présenter des projets, quand je vais présenter mon projet sera unique. Et pour moi, ça, c'est un grand avantage. Au début, je ne le voyais pas comme ça, mais à un moment, je me suis rendu compte que c'était très intéressant.
Si ces sandales voyageaient autrefois à travers tous les pays, la guerre a durement freiné l'élan de son entreprise. Aujourd'hui, face à la baisse des ventes, Vanessa Kaniki demande aux habitants de Goma de consommer les produits locaux pour soutenir la résilience des entrepreneurs dans la ville qui essayent de survivre malgré la crise. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Dans un rapport publié le 27 février, la Commission des droits de l'homme des Nations Unies au Soudan du Sud accuse les forces ougandaises d'être intervenues aux côtés de l'armée sud-soudanaise dans les opérations en tuant des civils. Dans un communiqué publié ce mardi 10 mars dans la soirée, l'armée ougandaise réfute ces accusations.
L'invité.
Plus de 30 ans de guerre dans l'est de la RDC avec plus de 10 millions de morts. Quel schéma préconiser pour mettre fin définitivement à cette crise qui n'a que trop duré? C'est autour de cette problématique que tourne cet entretien exclusif qu'a accordé Hugo Zala, président national du parti politique Base Républicaine à Radio Kapi. Il s'entretient avec Blaise Shindani Kambala.
Bonjour monsieur Hugo Zala.
Bonjour.
Plus de 30 ans de guerre dans l'est du pays avec plus de 10 millions de morts. Quel est le schéma de résolution de cette crise que préconise la base républicaine?
Nous devons construire à partir d'une cohésion nationale, rétablir l'autorité et la crédibilité de notre État pour mettre définitivement fin au cycle de violence. Je rappelle là les accords cadres d'Addis Abeba. Le monde était réuni autour de nous. Parce que les accords cadres d'Addis Abeba en 2013, c'était signé pour résoudre la crise en RDC. Parmi les éléments qu'on a soulignés en termes des mesures à mettre en place par la République démocratique du Congo, il y avait la cohésion nationale. Pourquoi? Aujourd'hui, nous avons la guerre en Iran, mais les États-Unis n'ont pas quelques Iraniens avec eux. Ils se battent contre les Iraniens. Mais nous, même lorsque nous créons contre le Rwanda, nous avons quelqu'un congolais qui accepte de prendre les armes du côté de l'ennemi. Cela signifie que quelque part, nous devons regarder quel est le vrai problème pour cimenter notre cohésion nationale. On est un pays avec plus de centaines d'ethnies, donc la question de cohésion nationale doit être une question portée au niveau des institutions publiques de manière à la cimenter de façon permanente. Et c'est à partir de cette cohésion qu'on peut bâtir une crédibilité, une autorité de l'État et mettre fin au cycle de violence de façon définitive et maintenant envisager le progrès et le développement, surtout pour cette zone de l'Est qui est une zone riche en ressources minières.
Vous faites allusion au dialogue entre tout Congolais.
Tout à fait, nous sommes d'accord avec la construction d'un dialogue d'abord républicain, parce que quand même nous avons une constitution qui, après 20 ans, du point de vue de notre parti, nous soulignons qu'à un moment nous devons envisager des réformes constitutionnelles, quand même que ce n'est pas encore opportun, mais cette constitution telle qu'elle est à ces jours, nous devons la respecter. Alors si on veut parler d'un dialogue, on ne doit pas mettre en place un cadre qui vient remettre en cause cette constitution, parce que ça va nous faire reculer jusqu'en 1990. Notre pays a beaucoup souffert des crises de légitimité dans l'exercice des pouvoirs publics. C'est comme ça que nous voulons d'un dialogue. Mais il ne faudra pas non plus avoir un dialogue au pays, un dialogue, je vais dire, fantaisiste. Quand on veut dialoguer, on dialogue entre qui? On dialogue entre des gens qui ont des problèmes et ils se disent échangeons pour trouver la solution. Et à plusieurs reprises, le dialogue nous a aidés dans notre pays à résoudre des crises. Je me souviens au dialogue des Sand City. Il y avait le MLC, le RCD et plein d'autres regroupements, groupes militaires, groupes armés, avec le pouvoir central qui, à cette époque, avait tout de même, il faut le reconnaître, un problème de légitimité, parce qu'il faut aussi rappeler la façon dont l'AFDL a pris le pouvoir en 1997. Mais le dialogue a permis de construire une solution qui, aujourd'hui, nous a donné une constitution. Laquelle constitution nous a permis d'avoir des institutions et dirige aujourd'hui le président de la République et l'ensemble des animateurs que nous avons aujourd'hui. Donc, on ne peut pas cracher sur notre histoire, penser que tout ce qui a été fait n'y représente rien. Même si on envisage des actions dans le futur, on doit commencer par construire sur base de ce que nous avons déjà. Et un dialogue dont l'objectif serait la cohésion nationale pour rétablir l'autorité et la crédibilité de l'État et résoudre la crise à l'Est, ce dialogue-là ne doit pas remettre en cause les institutions, l'ordre institutionnel que nous avons aujourd'hui.
Que répondez-vous à ceux qui pensent que il faut d'abord retrouver l'intégrité territoriale avant d'aller au dialogue entre Congolais?
Retrouver l'intégrité territoriale est prioritaire. est l'objectif principal sur la situation que nous vivons actuellement dans notre pays. Mais il faut regarder les choses en face. Constatons ensemble que plus d'un an déjà, nous avons des territoires qui ne répondent plus à l'autorité de l'État au niveau du pouvoir central à Kinshasa. On doit se donner la raison de remettre en cause la capacité des institutions et des animateurs des institutions actuelles à résoudre le problème. Mais est-ce pour cela qu'on doit les jeter en pâture? Non. Mais les animateurs des institutions doivent comprendre que le problème dépasse le simple cadre politique de leurs identités et de leurs coalitions ou alliances. C'est pour cela qu'il faut construire sur base d'un dialogue et voir comment est-ce qu'on peut résoudre cette crise. Donc pour nous, le dialogue, c'est une approche des solutions. On aimerait bien, c'est ça l'idéal, que les institutions de la République, dotées de tous les moyens que les lois du pays ont mis à leur disposition pour résoudre le problème. Mais d'autant plus que nous n'en avons pas, construisons sur base d'un autre modèle qui nous permettra de résoudre le problème.
Monsieur Hugo Zala, président de la base républicaine, je vous dis merci beaucoup.
Merci.
Ainsi prend fin ce journal mis en onde par Alain Goy, coordonné et supervisé par Alain Hirong Mushinge. À la présentation, grâce à Mzati Masanzi. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la Radio de la Paix.